Merci d'écouter RFI, 4h à Paris, 3h temps universel.
Paul Lancin-Spinelli.
Des otages libérés par le Hamas en échange de prisonniers palestiniens et des armes réduites au silence à Gaza. Israël et le mouvement islamiste sont parvenus ce mercredi à un accord de trêve. La guerre dure depuis 15 mois et a fait plus de 46 700 morts côté palestinien. Un cessez-le-feu n'est pas à l'ordre du jour en revanche entre l'Ukraine et la Russie. Kiev qui continue de solliciter ses alliés européens. Le président Volodymyr Zelensky a été reçu à Varsovie ce mercredi par le premier ministre polonais Donald Tusk, l'occasion de mentionner l'arrivée de Donald Trump à la présidence des États-Unis lundi prochain et d'anticiper son impact sur le conflit. Los Angeles, toujours rongée par les flammes, elle pourrait perdre en puissance. Cependant, avec la retombée des vents violents prévus prochainement, et puis monter une pièce de théâtre dans un Liban des années 80 en pleine guerre civile, c'est l'objectif du personnage principal incarné par Laurent Lafitte à l'affiche du film Le Quatrième Mur, sorti ce mercredi en France. Ce n'est plus qu'une question de détail avant de sceller la trêve à Gaza, annoncée mercredi par le médiateur qatarien. L'accord devait encore être finalisé dans la nuit, selon le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Mais après 15 mois de guerre entre Israël et le Hamas, les deux belligérants ont bel et bien trouvé une voie d'entente, Sami Boukhelifa.
Explosion de joie dans les rues de Gaza, des célébrations spontanées dans un territoire coupé du monde, plongé dans le noir, sans électricité et sans eau. La fin d'un cauchemar qui a duré 467 jours, durant lesquels plus de 46 000 Palestiniens ont perdu la vie. 2 millions de déplacés, soit presque la totalité de la population de l'enclave. La bande de Gaza anéantie par des dizaines de milliers de tonnes d'explosifs largués par l'aviation israélienne. Côté israélien, cet accord ne fait pas l'unanimité. L'extrême droite le rejette en bloc et dénonce une capitulation. Pour les familles d'otages, c'est encore l'inquiétude qui prime, car à l'heure actuelle, l'accord n'est connu que dans ses grandes lignes. Il s'ouvre sur une période d'arrêt des combats de 42 jours, une première étape durant laquelle 33 otages israéliens seront progressivement libérés. Il reste pourtant une centaine de captifs israéliens à Gaza. On ignore combien sont encore vivants et les noms des 33 premiers libérables ne sont toujours pas connus. 251 Israéliens avaient été enlevés le 7 octobre 2023 lors de l'attaque meurtrière du Hamas, qui a également coûté la vie à 1200 personnes en Israël ce jour-là. Sami Boukhelifa, Jérusalem, RFI.
Et les réactions ont afflué à l'international. Le chef de l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, Philippe Lazzarini, a plaidé pour une entrée rapide, sans entrave et ininterrompue d'aide humanitaire. Olaf Scholz, le chancelier allemand, évoque sur le réseau social X un cessez-le-feu qui ouvre la porte à la fin de la guerre. Donald Trump lui avait annoncé très tôt dans la journée qu'un accord sur les otages avait été trouvé, avant d'ajouter qu'il ne laisserait pas Gaza devenir, je cite, un refuge pour terroristes. Le président américain élu et investi lundi prochain, qui était aussi au centre des discussions entre le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, reçu ce mercredi à Varsovie, et donc le premier ministre polonais Donald Tusk. Écoutez-le.
Nous avons tous les atouts en main pour que l'Amérique recommence à considérer l'Europe comme un partenaire de coalition et un partenaire souhaitable et non comme un fardeau. Plus personne ne réglera nos problèmes de sécurité à notre place. Sur ce point, nous devons tous être d'accord avec le président Trump. Je suis convaincu que si tous les pays européens commencent à prendre au sérieux leurs engagements envers l'OTAN, les États-Unis seront satisfaits de continuer à travailler avec nous, car nous sommes un partenaire très sérieux. C'est ce qui ressort des nombreuses conversations que j'ai eues avec le président Trump il y a plusieurs années.
Le premier ministre polonais Donald Tusk, Donald Trump, lui, qui aura peut-être parmi ses premiers dossiers à gérer dès son investiture lundi, le bilan des incendies de Los Angeles. Les pompiers combattent toujours les flammes dans la deuxième ville la plus peuplée des États-Unis. Mais mercredi, les prévisionnistes ont annoncé un affaiblissement à venir dans les prochaines heures des vents qui attisaient jusqu'alors les flammes. Pour le moment, elles ont tué au moins 24 personnes. Les enquêteurs tentent toujours d'en déterminer l'origine, à plus d'une semaine après le début de l'embrasement. Mais une partie de la population sensible aux théories du complot a déjà tourné le dos aux explications scientifiques. Christophe Paget.
Il y a trois jours, la star de cinéma Mel Gibson, dont la maison a brûlé, sous-entendait sur Fox News que le gouvernement de Californie était peut-être impliqué dans ces feux, avec pour objectif de remplacer les demeures des millionnaires par des habitations pouvant accueillir davantage de familles. Donald Trump avait lui-même, peu après le début des incendies, accusé le gouverneur démocrate Gavin Newsom d'être à l'origine, avec sa politique de protection de l'environnement, des problèmes d'approvisionnement en eau rencontrés par les pompiers. De son côté, Elon Musk, dans un post aujourd'hui effacé, a repris à son compte la théorie du conspirationniste Alex Jones, affirmant que Joe Biden avait volontairement bloqué les plans de lutte contre les incendies, des feux propagés à dessein dans le cadre d'un complot mondialiste visant à mener une guerre économique. La maire démocrate de Los Angeles et la chef LGBTQ+ des pompiers sont elles aussi la cible de toutes sortes de mensonges. Et les conspirationnistes ont même réussi à rattacher les feux au traditionnel complot mêlant stars, politique et pédophilie, affirmant que les incendies avaient pour objectif de faire disparaître des preuves visant des personnalités pouvant être impliquées dans une vaste enquête pour trafic sexuel dans laquelle le rappeur P. Diddy doit être jugé au printemps.
Christophe Paget, la désinformation sous laquelle les Américains sont ensevelis selon Joe Biden, le dirigeant sortant qui prononçait ce mercredi son discours d'adieu à la nation. Il a aussi mis en garde contre la concentration dangereuse des pouvoirs dans les mains d'une poignée de personnes ultra riches selon lui. Plusieurs personnalités du monde de la tech comme Elon Musk ou Mark Zuckerberg se sont alliées récemment au nouveau président Donald Trump. C'est une tentative d'escroquerie qui n'a plus rien de futuriste. La première ministre thaïlandaise Petongtan Shinawatra a failli être piégée par téléphone par l'intelligence artificielle. Une fausse voix utilisée a été créée par les escrocs pour reproduire celle d'une dirigeante de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, Yelena Tomic.
Au bout du fil, une voix se présentant comme un dirigeant de l'ASEAN. Le message audio demande à son interlocutrice de faire un don. S'ensuit un lien par SMS renvoyant vers un compte en banque situé hors de Thaïlande. Petongtan Shinawatra soupçonne alors une arnaque. La fille de l'ancien premier ministre et milliardaire Thaksin, qui a récemment dévoilé sa fortune personnelle de près de 400 millions d'euros dans une déclaration d'intérêt, a voulu alerter le public sur cette tentative d'escroquerie nouvelle génération, qui utilise des méthodes de plus en plus sophistiquées pour tromper ses victimes. Et de fait, les escrocs ont fait usage de l'intelligence artificielle pour se faire passer pour un dirigeant connu d'un pays étranger en vue d'arnaquer la victime. Les réseaux d'arnaque en ligne sont devenus un véritable fléau en Thaïlande. Récemment, une arnaque massive à l'assurance maladie auprès de 200 000 retraités japonais a permis de détourner plus de 8 millions d'euros. Les réseaux opèrent également chez le voisin chinois, birman ou cambodgien, ce qui contraint Bangkok à prendre des mesures transnationales en collaboration avec les autorités régionales.
Yelena Tomic. En France, le gouvernement Bayrou sort ses atouts de sa manche pour éviter la censure. Une motion doit être votée par les députés ce jeudi. À la veille de cette bascule, pour séduire le camp socialiste, le Premier ministre s'est dit prêt à renoncer à supprimer 4000 postes d'enseignants. C'était l'une des pistes inscrites dans la proposition de budget pour cette année du gouvernement précédent de Michel Barnier. Et puis faire jouer des communautés en guerre dans une même pièce de théâtre, c'est l'objectif fou et risqué de ce metteur en scène en plein conflit au Liban en 1982 et personnage principal du Quatrième Mur. Le film de David Olfen vient de sortir ce mercredi en salle en France. C'est l'adaptation du roman éponyme de Sorge Chalandon, prix Goncourt des lycéens en 2013. Elisabeth Le Quéré vous le fait découvrir.
C'est l'histoire d'un homme embarqué dans une guerre dont il ne comprend pas les enjeux. Un homme habité par un projet insensé, promesse tenue à un ami sur son lit de mort, essayer de suspendre les haines et les rancœurs le temps d'une représentation théâtrale et espérer, pourquoi pas, que la guerre attendra la fin du dernier acte. Laurent Lafitte.
Souvent, les artistes posent la question de leur utilité en tant que citoyen, en tant qu'être humain, au-delà du plaisir qu'ils peuvent apporter aux gens. À quoi ça sert d'être acteur, à quoi ça sert d'être metteur en scène, à quoi ça sert de raconter des choses aux autres.
Ici, on manque de tout. Je ne comprends pas ce que vous venez faire avec le théâtre, là, maintenant, dans notre pays.
Laurent Lafitte, alias Georges, mise sur le pouvoir de transformation de l'art. Mais bientôt, c'est la réalité qui franchit l'enceinte du théâtre. Avant que la guerre ne ruine définitivement cette tentative de trêve poétique, guerre dont l'écho résonne encore tristement aujourd'hui.
What you do here?
Théâtre.
Elisabeth Le Quéré pour cette découverte ciné. RFI, il est presque 4h10 à Paris, 3h10 temps universel.